Netflix, Canal+, Prime Video, Salto, Disney+, les plateformes SVOD se multiplient mais rien ne change. Vous vous demandez toujours quoi regarder ? Télé Loisirs vient à votre rescousse chaque semaine dans À la Demande, le podcast qui vous permettra de lancer le bouton play en toute sérénité.
Bonjour à tous et merci d'écouter À la Demande, le podcast de la rédaction de Télé Loisirs consacré à toutes les plateformes SVOD. Je suis Émilie Meunier et cette semaine, on va s'intéresser de près au phénomène Squid Game, en français le jeu du calamar. Et oui, vous n'avez pas pu passer à côté de cette nouvelle série sud-coréenne qui fait un véritable carton depuis le mois de septembre sur Netflix, une série à la violence qui attire les foules autant qu'elle fait craindre le pire. Pour en parler et vous donner encore plus de conseils ciné et séries made in Corée, sont avec moi aujourd'hui les journalistes Laura Terrazza et Jérémy Mingo. Salut tous les deux.
Hello Émilie.
Salut Émilie.
En fin d'émission, c'est Valérie Lemercier qu'on adore dans le super film Aline, inspiré de la vie de Céline Dion et qui débarque en salle le 10 novembre, qui vous révélera son dernier coup de cœur SVOD. Si je vous dis combinaison de peintre rouge sang, fusillade à gogo, masque de carnaval et liasse de billets à la clé, vous pouvez logiquement penser à la Casa des Papel et vous n'auriez pas tort, mais aussi à Squid Game, le nouveau méga succès Netflix. C'est simple, en une vingtaine de jours, la série a été visionnée par plus de 130 millions de foyers et ce sont pas moins de 87 millions d'abonnés dans le monde qui ont visionné le programme jusqu'à sa toute fin. Et c'est vrai, cette série sud-coréenne qui met en scène un jeu de massacre censé éponger les dettes de ses participants a clairement un fort pouvoir. Addictif, difficile de ne pas binge-watcher les 9 épisodes.
Vous tous ici présents, vivez sur le fil du rasoir avec des dettes que vous ne pourrez jamais rembourser. Si vous ne souhaitez pas participer, merci de nous en informer maintenant.
1, 2, 3, soleil.
Comme le jeu auquel on jouait quand on était gamin.
Alors, je sais pas vous, Jérémy et Laura, mais moi, j'ai beaucoup culpabilisé, après coup, d'avoir, en fait, pris du plaisir à regarder des gens s'entretuer par choix et pour de l'argent.
Je suis un peu du même avis que toi, Émilie. J'ai pas mal été gêné par le côté malsain du programme, qui clairement reprend les codes de la télé-réalité, type Secret Story, et des jeux d'aventure comme Koh-Lanta. Enfermer des personnes pauvres et ou endettées sur une île et les faire jouer à des jeux morbides, avec une grosse somme d'argent à la clé, évidemment, c'est quand même sacrément tordu.
Clairement, ça joue sur les codes de la télé tout au long des épisodes, mais je trouve aussi que ça joue vraiment sur les codes des réseaux sociaux. Parce que les décors, clairement, de ces jeux, enfin, moi perso, je les trouve hyper instagrammables en fait. C'est horrible, hein, mais si je connaissais pas l'issue fatale des jeux quand tu perds, franchement, moi j'aimerais trop y être pour faire des stories, quoi.
C'est vrai qu'au-delà du concept quand même violent du programme, ce qui m'a le plus embêté, c'est de voir que cette série coréenne venait titiller notre propre perversité.
Alors, au risque de passer pour une personne absolument sans cœur et infréquentable...
Ce que tu n'es pas, précisons.
Oui, c'est mieux le préciser avant, parce qu'après
Laura
les gens ne vont
gentille.
Pas te croire.
Voilà. Donc Laura n'est pas une personne sans cœur, mais attention, elle va vous dire quelque chose.
Bah, je n'ai absolument pas culpabilisé devant cette série. Et en fait, même au contraire, moi ce que j'aime dans une série ou un film, c'est que ça me confronte à mes limites, un peu comme un miroir en fait. Pendant tous les épisodes, je me suis juste demandé en fait ce que moi je ferais à la place des personnages. Est-ce que j'irais trahir? Est-ce que je ferais preuve de violence pour survivre? Parce qu'en vrai, c'est une question. Tu te dis, non, jamais je ferais ça. Mais quand ta vie, elle est menacée, t'as un peu moins de morale, on va pas se mentir.
Vous avez tué ces gens!
Celui ou celle qui sortira vainqueur des 6 jeux remportera une énorme somme d'argent.
Si ça dégénère, il faudra qu'on se regroupe.
Rallie-toi à l'équipe la plus forte. C'est la seule chance que t'as de t'en sortir.
Les jeux d'enfants ont des règles simples.
Je te promets que je ferai tout pour qu'on gagne. Et comment tu feras ça? Je ferai ce qu'il faut pour.
Et ce que j'aimais aussi en fait dans cette série, au-delà de s'attacher à des personnages, à se dire à qui je ressemblerais le plus, c'est que ça parle aussi de la lutte des classes et des dérives du capitalisme. Ça va plus loin que juste des profils de personnages.
Ça c'est vrai, c'est un sujet qui est propre au cinéma coréen, mais que l'on retrouve aussi dans pas mal de nos sociétés occidentales finalement. Après, ça ne m'a pas étonné de voir le succès de la série grimper en flèche. Il faut dire que Netflix regorge de programmes coréens en tout genre, beaucoup de dramas comme on les appelle. Ce sont des programmes qui depuis plusieurs années sont très appréciés par les plus jeunes et qui ont permis à la culture coréenne de dépasser ses propres frontières. Et d'ailleurs, Netflix en a fait son fer de lance puisqu'il a prévu de dépenser près de 500 millions de dollars pour produire des contenus coréens dans les années à venir. Donc clairement, ils ont senti qu'il y avait un filon à prendre. Et puis, il faut citer aussi, évidemment, le succès du film Parasite de Bong Joon-ho, qui a fait resplendir le pays du matin calme, comme on l'appelle, dans le monde entier. L'autre exemple le plus frappant aussi, c'est la musique, parce que voilà, la K-pop, depuis quelques années, qui est représentée par des groupes qu'on ne cite plus et qu'on connaît tous maintenant, qui sont les BTS ou les Blackpink, qui sont
de la grande musique.
Ah, mais attention, Emily, il y a des très bons tubes chez les BTS et les Blackpink. et ces groupes-là cumulent des millions de fans sur les réseaux, c'est absolument phénoménal, et les moins de 25 ans en sont absolument accros.
Et bien d'ailleurs, dans le studio, on a une petite stagiaire aujourd'hui avec nous, c'est Colline, 14 ans, qui normalement n'a pas l'âge de regarder cette série, Squid Game, puisqu'elle est interdite aux moins de 16 ans, mais qui a cédé au phénomène quand même. Alors on va quand même lui demander son avis, est-ce qu'elle en a pensé. Alors déjà, Colline, pourquoi t'as regardé cette série alors que t'as pas l'âge?
C'est que je l'ai vue sur les réseaux avec une amie, et donc du coup je l'ai regardée en compagnie de ma mère et aussi de cette amie.
Bon, t'étais accompagnée, ça va, mais du coup t'en as pensé quoi, toi?
J'ai bien aimé la série. Après, c'est vrai qu'il y a des passages où c'était assez gore, et donc du coup j'ai passé certains moments, mais en soi, ça faisait partie du thème, donc du coup, j'ai bien aimé.
Bon, écoute, tu n'as pas l'air d'en sortir traumatisée, heureusement, mais c'est quand même pas un programme pour les plus jeunes, n'est-ce pas, Jérémy?
Ah bah, clairement non. De toute façon, Netflix le dit, c'est interdit aux moins de 16 ans. Voilà, même la classe politique française s'en mêle et commence à dire « attention aux parents, c'est à vous de faire attention à ce que regardent vos enfants ». Citons par exemple que depuis quelques jours, la série s'invite dans les cours de récré. Certains élèves s'amusent à jouer à Squid Game. Ils font des parties de 1, 2, 3 soleil et se donnent des coups à ceux qui perdent le jeu. Ou bien miment le fait d'avoir une arme à feu sur la tempe. Donc voilà, c'est sur les réseaux sociaux que ça se passe, où des extraits circulent sur Snapchat, TikTok et Instagram.
Bon, et au-delà de ça, on est d'accord aussi que c'est quand même un gros copier-coller de plein de choses, cette série. Rien que les costumes, c'est un mix entre La Casa de Papel et Star Wars, mais on peut y voir énormément d'autres influences.
Bah évidemment, on pense immédiatement à Hunger Games ou Battle Royale, à l'époque. Quand on regarde Squid Game, mettre des gens en compétition et tuer les perdants, c'est pas nouveau.
Là où j'ai un petit bémol, Jérémy, c'est qu'on pense au Hunger Games, mais à l'inverse, dans Squid Game, et c'est là finalement toute l'horreur de la série, les participants sont totalement consentants.
C'est vrai.
Ils veulent participer, ils connaissent le prix à payer, pour le coup, mais ils décident de rester. Et moi, quelque part, je peux pas totalement les plaindre, en fait.
Tu mentionnais aussi, Émilie, La Casa de Papel, et effectivement, c'est impossible de ne pas y penser quand on voit les combinaisons rouges des tortionnaires, ainsi que leur masque sur lequel figurent les symboles du triangle, du rond et du carré, là, qui nous fait clairement penser au symbole de la PlayStation, pour ceux qui jouent encore aux jeux vidéo.
C'est vrai qu'il y a plein de références à la pop culture, en fait, dans cette série, et peut-être c'est ce qui permet à nous, occidentaux, finalement, d'arriver à s'imprégner dans la série, parce que c'est pas facile d'être face à une culture qu'on connaît pas forcément, qui est pas la nôtre. Et comme tu le disais, Jérémy, sur les réseaux sociaux, moi, c'est avec l'image vraiment de la carte, avec ces symboles qui font plein sur la PlayStation, qui m'ont donné envie de regarder la série, même si j'ai un peu plus de 25 ans. C'est vraiment via les réseaux aussi que je suis arrivée à cette série. Et il y a aussi une autre référence, moi, qui m'a sauté aux yeux, c'est les rapports à Matrix. Vous savez, quand il doit choisir l'enveloppe bleue ou l'enveloppe rouge dans le jeu qu'on appelle le Dagji, si je le prononce bien, pour moi, c'est clairement pilule bleue ou pilule rouge de Matrix. Et de toute façon, c'est aussi une ambivalence entre ces deux couleurs que tu retrouves pendant toute la série. Et voilà, c'est toutes ces références à la pop culture qui font que t'es un peu en terrain connu, en fait, avec cette série-là, quoi.
Et alors, sans spoiler, la série se termine en offrant un beau champ des possibles pour une saison 2. Est-ce que c'est déjà dans les tuyaux ou pas?
Alors, vu le succès de la série, je vois mal Netflix ne pas réclamer une suite au créateur, désolé, je vais certainement mal prononcer son nom, mais Hang Dong-hook. Faut savoir que la plateforme américaine a déboursé seulement 21 millions de dollars pour acquérir la fiction, et qu'elle lui en a rapporté aujourd'hui plus de 900 millions. Donc c'est quand même...
Jackpot.
Voilà, une très belle plus-value, on va pas se mentir. C'est énorme. Mais pour le moment, on n'a pas encore d'informations concrètes à donner sur une potentielle saison 2, sachant que, comme le créateur l'a lui-même dit, il a écrit Squid Game comme une saison unique.
Et surtout, il a mis 10 ans à l'écrire.
Même, je crois, 14 ans. Il a mis 14 ans à sortir Squid Game de lui, ce qui est quand même pas rien.
Donc, pas sûr que les fans attendent encore 15 ans avant.
Je ne pense pas que les fans... Est-ce que Netflix existera encore dans 15 ans? On ne sait pas. Mais personnellement, je pense que les discussions vont évidemment avoir lieu entre Netflix et les personnes liées à la série pour réfléchir à une suite.
Alors moi, ça me fait très peur que justement, à cause d'un succès d'audience, ils tirent trop sur la corde de la narration. Je préférerais vraiment, en fait, qu'on s'arrête à un format d'une mini-série. Un peu comme si Squid Game, c'était un avertissement sur notre époque. Voilà ce qu'on est en train de vivre, voilà ce que c'est cette réalité terrible que vivent beaucoup de gens. il faudrait pas qu'on tombe dans le piège justement du profit, c'est-à-dire ironiquement au nom du grand capital et des profits des audiences, bah faudrait pas dénaturer en fait le message de Squid Game et la qualité de la série.
Et puisque Squid Game a remis les productions sud-coréennes sur le devant de la scène, Jérémy et Laura, vous aviez quelques programmes à conseiller pour tous ceux qui voudraient rester dans la thématique.
Mais si vous avez Amazon Prime Video, je vous conseille évidemment le long métrage Dernier train pour Busan, qui est sorti en 2016.
Le train en direction de Busan va bientôt partir.
S'il vous plaît,
il y a un passager un peu louche.
Une passagère fait un malaise en voiture 11.
Il se passe quoi ?
Ce film d'horreur post-apocalyptique signé Hong Sang-ho suit des passagers d'un train alors que le monde sombre dans une épidémie zombie. C'est un grand film de genre, ultra efficace si vous aimez les zombies évidemment. On n'est pas dans Walking Dead, les zombies courent très très vite, les zombies ont très très faim, donc les zombies se font très très peur. Voilà.
Et il y a une autre série du réalisateur qui arrive.
Tout à fait, donc justement le même réalisateur donc, de ce film sortira le 19 novembre sur Netflix sa toute première série qui est intitulée Hellbound. Cette série se déroule sur Terre à une époque où les êtres humains sont capables d'anticiper leur propre mort. Mais pour se venger, Dieu envoie des anges slash monstres, on sait pas trop, pour tuer voilà ceux qui arrivent à prédire leur fin de vie. Donc voilà, ça va encore être un petit peu effrayant, je pense.
Ouais, on a hâte. Et quant à toi, Laura, c'est un film à moitié coréen que tu voulais conseiller, puisque son réalisateur est sud-coréen, mais pas le casting.
Exactement, moi je voulais vous conseiller Stalker, en fait, de Park Chung-wook, que j'ai sûrement très mal prononcé. Je m'excuse. Pour moi, on retrouve dans Stalker cette relation ambiguë qu'il y a entre le chasseur et sa proie, que je trouve qu'on retrouve pas mal dans Squid Game. C'est tourné en anglais, pour ceux qui affectionnent la VO. Et on a Nicole Kidman qui est extraordinaire, Matthew Good qui est parfaitement préoccupant, et Mia Wasikowska qui prouve encore une fois que c'est une grande actrice avec des choix assez audacieux. Et voilà, et ce trio va tourner tout en perversion, tout en danger permanent, avec la violence qui pète comme ça à chaque moment, qu'on retrouve finalement dans les œuvres coréennes. C'est très calme, c'est très doux, tout va bien, et bim, ça part, tu sais pas pourquoi. C'est exactement ça, c'est une montée en puissance de la violence, et finalement, qui chasse qui est un danger pour l'autre, et ça tourne en permanence sur ce trio, et vraiment, regardez-le. Donc sur Disney+, qui est disponible, donc ça permet de changer un petit peu de Netflix.
Mais... Et petite précision, donc le réalisateur de Stalker, c'est aussi le réalisateur d'Old Boy.
Exactement, donc c'est un peu plus soft qu'Old Boy. C'est un peu plus à la sauce hollywoodienne, mais on retrouve pas mal de perversité qu'on adore.
Pour résumer, si vous êtes passé à côté du phénomène, Squid Game est toujours disponible sur Netflix et nous, on est pour que vous vous fassiez votre propre avis sur le programme. Et on vous conseille également, pour prolonger l'expérience, d'enchaîner avec Le Dernier Train pour Busan sur Prime Video et Stalker sur Disney+. Place maintenant à notre guest Valérie Lemercier, dont le film Aline débarque dans les salles le 10 novembre prochain, vous conseille de regarder sur les plateformes SVOD et plus précisément sur OCS la série Big Little Lies avec Nicole Kidman, Reese Witherspoon, Shailene Woodley, Zoé Kravitz et bien d'autres. Et elle vous explique pourquoi.
Peut-être Big Little Lies, très bien réalisé. J'ai adoré cet univers, ces actrices. Ça m'a... En fait, j'ai jamais regardé de série. Je passe à côté de tout, j'ai jamais vu Friends, j'ai jamais vu Six Feet Under, jamais tout ce dont on parle depuis. Et là, j'en ai vu une, j'ai vu celle-là, et j'étais. Je les regardais, je les ai avalées, quoi, voilà. J'aimais beaucoup cette série-là, mais je sais que j'ai des énormes lacunes.
Voilà, c'est déjà la fin de ce podcast. Merci de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à nous soutenir en likant et commentant l'épisode sur les réseaux sociaux. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode d'À la demande qui sera consacré cette fois à une série que beaucoup considèrent comme la meilleure de tous les temps, Succession. Merci Jérém, merci Laura. C'était cool de vous avoir dans cet épisode.
Merci beaucoup Émilie et merci Laura.
Merci Jérémy, merci Émilie, c'est un plaisir.
Et j'ai oublié, merci Colline.
Salut.
Vous pouvez retrouver ce podcast sur Deezer, Spotify, Apple Podcasts et toutes les plateformes de podcast.